Bonsoir et meilleurs voeux à tous. Dialogue entre Congolais de ce lundi 6 janvier 2014. Première émission de l'année 2014 dont j'ai le plaisir de vous présenter revient sur la situation sécuritaire qui a prévalu en RDC à la fin de l'année 2013. Plusieurs sites stratégiques ont fait l'objet d'attaques simultanées à Kinshasa, au Katanga et au Maniema par des hommes armés qualifiés de terroristes par le gouvernement congolais. Le bilan de ces événements fait état d'une centaine de victimes. Quelle lecture faire de ces événements? Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat André Alain Atundu, cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR, en sigle. André Alain Atundu, bonsoir.
Bonsoir madame.
Martin Fayoulou, député national de l'opposition et coordonnateur de la plateforme Force acquise au changement, FAC en sigle. Il est président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID. Martin Fayoulou, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Jacques Wondo, analyste politique et expert en questions militaires. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC. Jean-Jacques Wondo, bonsoir.
Bonsoir Madame Couté, permettez-moi de présenter mes voeux à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci, merci chers auditeurs, parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Onesport Sakana Moussemé depuis Bounia dans la province orientale. Je pense que les attaques du 30 décembre 2013 doivent faire objet de réflexion pour le gouvernement de la RDC et surtout les services de sécurité et des renseignements qui n'ont pas bien joué leur rôle. Malonga Koubali de Bandundouville, ces événements simultanés sont vraiment trop louche à comprendre. Les uns parlent d'un montage gouvernemental, d'autres d'une revendication des personnes qui sont frustrées. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités constitutionnelles car de telles situations accusent l'inefficacité sécuritaire et témoignent que la paix n'est pas encore rétablie telle qu'on croyait déjà. Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Au moins 70 assaillants ont été tués lundi 30 décembre 2013 dans différentes attaques survenues à Kinshasa, Lubumbashi au Katanga et à Kindu dans le Maniema. Selon le porte-parole du gouvernement, sur la seule ville de Kinshasa, 52 assaillants ont été tués et 3 militaires des FRDC, dont un officier supérieur. Dans sa déclaration, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a qualifié les assaillants des terroristes qui ont attaqué 3 sites stratégiques de Kinshasa. Voir la radio-télévision nationale congolaise, l'aéroport d'Ndjili et le site abritant l'état-major général des FRDC Ngaliema. Rappel de ces événements avec vous, Dona Madimba.
Ces événements se sont déroulés presque quasi simultanément au même moment hier, même si pour beaucoup c'est surtout Kinshasa qui a commencé à en parler en premier vers 9h. Ils sont restés tout de même proches. Vers 9h donc, on a commencé à parler des tirs entendus dans le périmètre de la RTNC dans la capitale. Et très vite, ces événements ont été confirmés comme se déroulant dans l'enceinte même de ce site. Sont venues ensuite les attaques du même genre. Concernant cette fois-là, le camp Tchatchi est enfin seulement la même situation à l'aéroport de Ndjili et dans les deux autres villes du pays, à savoir Lubumbashi et Kindu. Et à chaque fois, il était question des hommes faiblement armés et se réclamant tous d'un homme religieux dénommé Mukungubila. Heureusement, l'avant-midi, les échanges se sont significativement calmés jusqu'à totalement s'arrêter les après-midi jusqu'au soir. Le porte-parole du gouvernement avait alors pris la parole à midi, expliquant que la situation était désormais maîtrisée, que les dégâts étaient essentiellement dans les rangs des assaillants, plusieurs assaillants tués, quelques-uns blessés et d'autres encore capturés. Cependant, malgré ce résultat, Kinshasa n'avait pas du tout réussi à retrouver une ambiance normale d'absence de psychose.
Merci Dona Madimba. Cet élément a été réalisé le 31 décembre dernier, 2013, je voulais dire. C'est pourquoi vous avez suivi notre reporter parler d'hier. Donc, il parlait du 30 décembre dernier. Et selon Lambert Mende, grâce à l'autodéfense des FRDC, ces assaillants ont été maîtrisés. 52 parmi eux ont été tués et plus de 30 capturés à Kinshasa. Côté FRDC, le porte-parole parle de 3 militaires tués, dont un officier supérieur. On l'écoute au téléphone de Dona Madimba.
Après tout ce qui s'est passé hier à Kinshasa,
Lubumbashi, Kolwezi et Kindu, le bilan est lourd, très lourd pour notre pays. En effet, à l'état-major général des FRDC à Ngaliema, 16 terroristes ont été tués, 2 terroristes ont été capturés, un officier supérieur des FRDC a été tué. À la RTNC, 14 terroristes ont été tués, 17 terroristes ont été capturés, parmi lesquels 2 gravement blessés sont aux soins. 2 éléments des FRDC ont été tués, 8 journalistes ont été blessés. À l'aéroport international de Njili, 21 terroristes ont été tués, 5 terroristes ont été capturés, 2 civils, passagers d'aéronefs en attente de décollage, ont été blessés. À Lubumbashi, 40 terroristes ont été tués, 76 terroristes ont été capturés en compagnie de 2 enfants, 5 éléments des FRDC ont été tués. À Kolwezi, 1 terroriste a été tué et 70 autres ont été capturés. À Kindu, 2 terroristes ont été tués, 2 ont été capturés.
C'était la Lombermine des porte-parole du gouvernement qui dressait le bilan de ces événements. André Alain Tundu, je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR en sigle. Quelle lecture faites-vous de ces événements du 30 décembre 2013?
Merci. La lecture qu'on peut en faire, c'est que il est regrettable que certains enfants de ce pays ne croient pas en la démocratie, en sa capacité d'alternance, et surtout profitent d'un moment où le sentiment général est à l'amour, à l'expression d'amour, de la sérénité dans la République, pour s'aimer la désolation et surtout envoyer à la mort des jeunes gens qui représentent malgré tout l'espoir du pays. Heureusement que dans ces moments troubles, la réplique de nos forces armées a été cinglante, à juger par le nombre d'assaillants tués.
Alors, Monsieur Tundu, il y a certains auditeurs et certains observateurs qui estiment que les services de sécurité ont une part de responsabilité dans ces événements du 30 décembre. C'est comme cet auditeur, Adrien Lobakwe de Kananga, qui dit ceci: la situation qui s'est déroulée dans certaines villes du pays prouve... prouve qu'il faut réformer les services de sécurité congolais d'une part, et de l'autre, une certaine complicité existe entre ces assaillants et certains responsables de l'armée.
Bon, ce sont des affirmations difficiles à confirmer ou à dédire, mais lorsque de tels événements se passent dans n'importe quel pays du monde, il y a un protocole qui est respecté. La première des choses, c'est maîtriser les événements. Eh bien, mettre fin à tout cela. On l'a mis fin. Et puis, 2, rechercher les responsabilités et punir les coupables. Au niveau de la recherche de responsabilités, ce sont les services spécialisés d'enquête qui sont là à chercher les tenants et les aboutissants, les motivations, les modes opératoires et finalement, qui sont les auteurs matériels, qui sont les auteurs intellectuels, qui sont les soutiens éventuels, les sponsors, etc. Et donc, c'est à la conclusion de cela que la responsabilité des uns et des autres peut être engagée.
Mais est-ce qu'on peut parler des défaillances des services de sécurité?
Étant donné que les services de sécurité ont pour responsabilité première de nous sécuriser, c'est-à-dire de voir tout ce qui ne va pas et de prévenir, on peut penser qu'ils ont une part de responsabilité. Mais ça, c'est au niveau théorique. Parce que maintenant, il faut voir, est-ce qu'il y a eu des complicités, comme on dit? Est-ce que...
Alors, il y a des gens qui estiment que, qui pensent que ces gens qui étaient faiblement armés, est-ce qu'ils pouvaient vraiment renverser, étaient venus vraiment pour renverser le pouvoir en place à Kinshasa?
Je crois que même le porte-parole l'a dit, avec les moyens dont ils disposaient et le nombre qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas renverser le pouvoir à Kinshasa. Et d'ailleurs, dans leur comportement, On n'a pas senti le comportement des gens qui voulaient renverser le pouvoir, mais au contraire, des gens qui voulaient s'aimer la désolation, la zizanie, qui pour je ne sais quelle raison voulaient exprimer ainsi de façon violente leur frustration, espérant que, ce faisant, ils seront peut-être pris en compte. C'était pour eux une occasion de provoquer le dialogue avec les autorités, mais mal leur en prit.
Il y a Cyril Kassongo qui nous écrit de Montpellier en France. Il dit ceci, les attaques du 30 décembre 2013 à Kinshasa, Lubumbashi, Maniema ressemblent ni plus ni moins à un vaste montage de mauvais goût du gouvernement de Kinshasa.
Mais je crois qu'il n'est pas assez responsable d'affirmer avec une légèreté insupportable des informations de ce genre. Il y a eu mort d'homme parmi les assaillants, mort d'homme parmi les agents de l'ordre. Quel est ce pouvoir qui va se permettre de faire ainsi de façon cynique, n'est-ce pas, cette mise en scène macabre? Et pourquoi, n'est-ce pas? Je ne vois pas quel est ce danger-là imminent qui pouvait justifier que le pouvoir organise une telle mascarade. Non. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de services de renseignement qu'il faut refaire, etc. Mais la réforme est un processus en cours. Et quelles que soient les dispositions prises et les dispositions législatives, matérielles, en personnel, eh bien, le criminel a toujours l'avantage de tenir les dispositions en cours comme préalable à la mission ou à son crime. Et donc, quelles que soient les dispositions qu'on prend, si le criminel est décidé, eh bien, il va agir en fonction des dispositions que vous avez prises. L'essentiel dans ce cas, c'est d'abord la promptitude de la réaction, la capacité des forces de réaction à maîtriser sans trop de dommages collatéraux, et puis enfin, la capacité à remonter jusqu'à la source. Et aujourd'hui, je crois que la réaction a été prompte et efficace, et même chirurgicale, et nous attendons la phase de remonter jusqu'à la source.
Alors, le gouvernement qualifie ces gens de terroristes, est-ce que c'est justifié?
Ah oui, même le porte-parole a justifié. Un terroriste, ce n'est pas nécessairement qui a été au camp des talibans, n'est-ce pas? C'est une expression qui veut dire que quelqu'un considère la terreur comme instrument de revendication et de gestion des problèmes sociaux et politiques.
Merci Andrala Tundu. Martin Paulou, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et coordonnateur de la plateforme Force Acquise au Changement, FAC en sigle. Vous êtes aussi président du parti politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement SID. Comment vous analysez ou vous avez analysé ces événements du 30 décembre 2013?
Mais écoutez, pour nous, nous pensons que cette situation évoque un pays qui n'a pas de gouvernement, une situation de non-État. Parce que, à entendre tout le monde, y compris M. Atundu et le porte-parole du gouvernement, on ne comprend absolument rien. Ces jeunes gens sont venus d'où? Et tout le monde dit qu'ils n'étaient pas armés lourdement. Mais ils sont de Kinshasa ou d'ailleurs? Ce sont les anciens militaires ou les Kurunas qu'on a recrutés ou des jeunes gens venus.
On parle des adeptes du prophète Mokungu Bila.
Mais est-ce qu'on les a vus? Quelqu'un les a interrogés? Ils parlaient quelle langue? Vous avez entendu? Ces jeunes gens, l'adepte du prophète illuminé, est-ce que qui a vérifié? Non, je crois que le porte-parole dit qu'il ne visait pas le pouvoir, c'est ça? Mais il visait quoi? Et comment des gens qui ne visent pas le pouvoir peuvent s'aventurer, aller à l'état-major général de l'armée et aller jusqu'au quatrième étage, entrer. Monsieur Mende a dit qu'il y avait 30 personnes qui étaient là-bas. 30 personnes, vous connaissez l'état-major. Vous entrez et vous longez, c'est allé pour arriver jusqu'à l'état-major, qui est bien gardé, et arriver à semer la désolation, à me tuer là-bas, sur place, et aller à la RTNC, bien gardé, et arriver jusqu'au studio. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu trop? C'est pas grossier? Et ces jeunes gens allaient à l'aéroport international de Kinshasa. Donc le toit, site bien gardé. Alors, pour aller semer la terreur. Et allons-y plus loin. quand le gouvernement dit, et M. Yatundu qui dit que la réplique était sanglante, oui, et il ajoute que ces gens étaient faiblement armés, donc ils ne sont pas venus pour prendre le pouvoir. Mais si vous avez une armée, une police nationale, devant ces jeunes gens, visiblement pas armés, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des sommations? Vous les arrêtez? Vous les tuez?
Vous estimez que les militaires ne devaient pas tirer sur ces gens?
Ça ne se passe pas. Vous avez suivi l'histoire des Merah en France, comment toute la population congolaise s'est insurgée contre le policier français. Et aujourd'hui, on dit, et monsieur Atundu dit, et promptitude de réaction, sans trop de dommages collatéraux. Vous tuez 53 personnes, et d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement est en train de réviser ces chiffres, parce qu'il avait parlé de 103. Et maintenant, on commence à dire 52 assaillants, ainsi de suite. Il a parlé de 103. Alors, les vies humaines que vous tuez, or ces gens-là, vous pouvez faire des sommations pour les arrêter vivants et les questionner. Donc, nous disons qu'il n'y a pas de gouvernement, qu'il y a un problème sérieux, et ce que nous demandons, c'est que qu'il y ait une enquête sérieuse. J'ai d'ailleurs demandé à l'Assemblée nationale que l'Assemblée nationale puisse mener une enquête. Il faut une enquête sérieuse pour qu'on comprenne. Ces jeunes gens-là sont d'où? Ils sont venus d'où? Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Et pourquoi on n'a pas fait des sommations pour les capturer vivants et qu'on en connaisse davantage?
Et selon vous, ils viendraient d'où ces jeunes gens?
Mais je ne peux pas, moi je suis pas un divin. Je ne peux pas devenir moi aussi un illuminé pour commencer à prédire les choses et à savoir ces gens-là. Je ne sais pas. Mais les montages, si montage il y a, c'est grossier. S'il n'y a pas montage, si ces jeunes gens-là, vraiment, 20 personnes allaient s'aventurer là où ils savent qu'il y a des militaires, c'est que il y a un problème, où ils ont été drogués, où il y avait quelque chose dans leur tête. Donc, ce que nous disons, quand M. Mende parle de terroriste, et ce que nous voulons dire, qui est terroriste? Et heureusement que M. Atun doit donner la définition que j'accepte du terrorisme. Qui sème la terreur? Qui sème la panique? Qui sème la psychose au sein de la population? Qui? Est-ce que c'est ces gens-là ou c'est le gouvernement? C'est la question à laquelle j'aimerais que le porte-parole du gouvernement nous réponde.
Mais vous-même répondez à cette question que vous posez. Qui sème la panique, selon vous?
Mais écoutez, vous voyez ce que je veux dire. Mais qui sème la panique? Quand vous tuez des gens qui ne sont pas armés, dites-moi. Qui sème la panique. Quand vous tuez les gens, vous êtes une armée, formée. Vous avez une police, parce que après j'ai fait le tour de la ville. Je vis les policiers en colonne, en train de déambuler, et comme pour dire que, ben voilà, c'est lui qui ose. Mais quand nous faisons des marches ici, des paisibles citoyens, sans armes, vous voyez comment la police nationale réprime ces manifestations. Et aujourd'hui, quand 30 personnes, est-ce que vous croyez à ça? Qui peut croire à cette tragédie ou à ce théâtre des marionnettes?
Merci.
Tu peux croire?
Merci Martin Fayoulou, Jean-Jacques Ondo, analyste politique, expert en questions militaires. Vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, rétroscopie de la force publique au FRDC ». Comment vous, en tant qu'expert, vous pouvez expliquer cette situation?
Oh oui, bonjour madame. Je pense que la situation est très difficile à expliquer. C'est-à-dire difficile de faire une lecture précise des événements dans la mesure où, à ce stade, peu d'informations filtrent sur cette affaire, alors que l'opinion publique attend d'être éclairée de manière transparente sur les commanditaires et les mobiles de ces événements. En tant qu'analyste, sur base des recoupements des informations mises à notre disposition, je peux avancer, je dis bien avancer, trois hypothèses. Et ces hypothèses proviennent de toutes les sources d'informations que nous avons pu recueillir depuis que ces événements ont eu lieu. Donc il y a trois pistes principales qui pourraient expliquer ces événements. La première, c'est la piste d'une attaque d'insurgés ou ce que le ministre Mende a qualifié de terroriste. La deuxième piste, c'est la piste d'un mécontentement au sein des services de sécurité qui serait lié aux récentes mises en place dans la police et notamment aussi au sein de services de renseignement. Et la troisième piste, sur base des informations recueillies du terrain, peut être liée à un montage du pouvoir qui ressemblerait à une sorte d'exercice de manœuvre militaire synchronisée. Parce que si on analyse un peu la manière dont certaines opérations ont été menées, il n'est pas exclu que ce soit une sorte de manœuvre, un exercice de manœuvre synchronisée pour voir un peu comment les forces de police ou les forces de sécurité allaient réagir face à un événement. Ce sont juste des pistes, pas de des affirmations qui ne doivent pas être exclues à ce stade de l'enquête, d'autant plus que nous n'avons pas encore toutes les informations, nous n'avons pas encore toutes les conclusions de différentes enquêtes qui sont en cours. Alors, s'il s'agit d'un acte terroriste, je pense que cela renvoie à la faiblesse des services de sécurité, comme l'a souligné un des auditeurs. Et là, ça interpelle réellement le pouvoir, hein, dans sa fonction régalienne, de voir que comment un immeuble aussi gigantesque que la RTNC peut être aussi facilement attaqué, et un lieu stratégique qu'est un aéroport de N'Djili être attaqué, et aussi l'état-major de l'armée. Et là, on sait que en tant qu'expert militaire, ces genres d'actions ne peuvent pas se faire sans de collusion, sans qu'il y ait collusion avec les forces, les personnes qui connaissent un peu le fonctionnement de l'armée. Par contre, quand on parle de que les actions se sont déroulées sans dommages collatéraux, je veux juste réagir en disant que en matière de l'usage des moyens de contrainte par la par les forces de sécurité l'armée, la loi exige le respect des trois principes fondamentaux, ce sont des principes juridiques de base, qui sont le principe de légalité, de proportionnalité et d'opportunité. L'égalité, c'est-à-dire que, voilà, si on réagit, si cela est permis par la loi. Mais il faut que deux autres principes soient encore rencontrés pour pouvoir permettre une réaction appropriée des services de sécurité. La proportionnalité. Et là, ben, avec des éléments qu'on sait ou qu'on a vus, des jeunes gens dont on dit qu'ils n'étaient pas armés, on voit la réaction des services de sécurité, on se pose la question si le principe de proportionnalité a été respecté. Et il y a un troisième principe d'opportunité. Est-ce qu'à chaque attaque, il faut nécessairement réagir? Il n'y a pas d'autre moyen de réaction, parce que en droit, on dit l'usage de la force doit être ce qu'on appelle en latin « ultima ratio », donc le dernier recours. Et cela doit se faire à minima, c'est-à-dire avec la juste réaction. C'est-à-dire qu'au lieu de tuer les gens, on pouvait les mettre hors d'état de nuire ou le neutraliser, mais ils ne suffisaient pas nécessairement de pouvoir les tuer. Et là, ce sont des principes fondamentaux de l'usage des moyens de contrainte qui ont été qui, à mon avis, me semblent ne pas avoir été respectés. Mais il y a même un quatrième principe moral ou éthique, en gros on dit de licéité. C'est-à-dire, même si une action est légale, mais moralement, est-ce qu'il fallait ces moyens de contrainte? D'autant plus que ceux qui ont réagi par rapport à ces actions, ce n'était pas les forces de police, mais c'était plutôt la garde républicaine. Et c'est la seule unité qui a réagi. Et si on prend le cas de la RTNC, pas loin, on avait la police qui a son état-major à moins de 2-3 kilomètres. On avait les camps collaborant avec la force terrestre. Et on se pose la question, pourquoi une garde républicaine dont le fonctionnement est régi par un article 114 de la loi sur la fonction organique sur le FRDC et qui limite l'action de la garde républicaine, parce que la garde républicaine ne pouvait pas légalement réagir par rapport à cette situation. Et d'où la piste, c'est que voilà, ça pourrait être une manœuvre synchronisée. Donc je peux poursuivre par la suite pour apporter d'autres éléments.
Alors avant de poursuivre, on va prendre pour vous, Jean-Jacques Mondo, cette réaction qui nous vient de Kalemie au Katanga.
C'est Ramazan Ikaloum Augustin, depuis la ville de Garemi, sous la province de Katanga. Ces attaques prouvent la fragilité de nos organes des renseignements et des sécurités, car c'est inexplicable une force si moindre puisse déstabiliser les endroits stratégiques du pays sans que les agents du renseignement s'en rendent compte. Il fallait que les commanditaires soient traduits en justice.
Alors, cet auditeur évoque aussi la fragilité de nos organes ou des services de sécurité. Il estime que c'est inexplicable qu'une force si moindre puisse déstabiliser des endroits stratégiques du pays sans que les agents de renseignement ne s'en rendent compte.
Je pense que voilà, si l'hypothèse d'une attaque d'insurgés ou terroristes est confirmée, cela interpelle à la qualité et l'efficacité de nos services de sécurité. D'autant plus que même dans mon ouvrage, quand j'ai modélisé ce qu'on appelle une équation stratégique de la sécurité qui dit la sécurité égale l'anticipation plus l'efficacité plus la discipline, le tout multiplié par la motivation. L'anticipation, c'est ça qui fait qu'un service de sécurité soit fort, parce que si on ne sait pas anticiper sur les événements, on est surpris. Et une fois que ce facteur n'est pas respecté, et ça conditionne même la faiblesse de services de sécurité. Parce que si on avait affaire avec une force ou des éléments beaucoup plus des éléments mieux armés, je pense que les résultats auraient été différents. Donc à ce stade, il faut qu'il y ait aussi non pas seulement des sanctions par rapport aux coupables ou à ces insurgés, mais qu'il y ait quand même de sanctions au niveau du fonctionnement des services de sécurité qui quelque part ont failli à leur mission.
Merci. Les services de renseignement. Merci Jean-Jacques Kondo, Andrala Tundu. Avant de réagir aux analyses de Martin Fayoulou et Jean-Jacques Kondo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu Sud Kivu.
Edith Ndilonge à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Des événements très malheureux qui se sont produits dans trois grandes villes du pays au même moment prouvent à suffisance qu'il y a encore beaucoup de mécontents de la manière dont la RDC est dirigée actuellement, malgré la tenue de la Concertation nationale. Et ceci donne raison à ceux-là qui réclament encore la tenue du vrai dialogue, car le sang des Congolais a trop coulé, on en a assez.
La réaction.
Oui, c'est vrai. Tout le monde en a assez du sang des Congolais qui coule. Et voilà pourquoi la démocratie voudrait que les expressions de frustration soient pacifiques et démocratiques. Et c'est l'engagement que nous avons pris après Sun City, c'est l'engagement que nous avons confirmé par notre Constitution, et il est regrettable que certains ne recourent pas à cette voie-là. Alors, s'agissant de propos de l'honorable Fayoulou, j'ai comme l'impression que, pour l'honorable Fayoulou, l'opposition est un jeu de société qui consiste à trouver une contradiction systématique et un non-sens dans toute initiative de gouvernement. Plutôt que de faire des affirmations ou de se poser de questions, de contester les affirmations qui proviennent des bouches autorisées. Mais il devait donner la controversion. Il dit qu'il n'est pas devin. Mais s'il n'est pas devin, qu'il attende les résultats des enquêtes, plutôt que de réagir comme ça à chaud.
Il y a quand même à se poser des questions, comment
pose des questions, c'est comme si, après avoir maté ces événements, le gouvernement ne faisait plus rien, il n'avait plus de préoccupations sur les origines, n'avait plus de préoccupations comment ceci est arrivé, qui sont responsables et qui sont coupables. Donc, au lieu, à son niveau, je pense qu'au lieu de se poser des questions de ce genre et de contester inutilement la version des faits, il devait donner des contre-versions, de façon que l'opinion puisse se juger. Parce que là, tout le monde est responsable. Monsieur Fayoulou est député. Il doit se poser, mais nous les députés, le Parlement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça c'est un. De deux, pour le...
Par rapport à la réaction de FARDC, vous pouvez réagir à ça? On dit que cette réaction était dépourvue de proportionnalité.
Non, voilà. Je réagis de façon générale au propos de monsieur Ondo.
Est-ce que vous pouvez d'abord réagir par rapport à ça? Est-ce que l'armée était
obligée? Puisqu'il en a parlé, parlé de ça. Il a parlé de la légalité, de la proportionnalité, de l'opportunité, etc. Mais ça, ce sont des distinguos intellectuels, des démarches logiques qu'on essaie de faire comprendre. Mais au moment de l'action, le tout se passe en même temps. C'est pour cela que nous avons un état-major général, n'est-ce pas? Et qui à des scénarios. Lorsque tel événement se passe, eh bien, c'est elle qui doit réagir et d'après tel protocole. Voilà pourquoi, à la RTNC, il n'y a pas eu l'arrivée en même temps des gens du camp Tchati, des camps Seta, du camp Kokolo, de JR. Non. Il y a un ordonnancement. Nous ne sommes pas dans un
état. Nous ne sommes pas dans un non-état.
Nous ne sommes pas dans un non-état.
De les tuer.
Nous ne sommes pas dans un non-état. Comme le prétend l'honorable Fayoulou. le chef d'état-major général de l'armée existe, il a donné des instructions. Le conseil de supérieur militaire existe, il a examiné la situation générale. Alors, je pense que plutôt que d'agir par émotion, il faut attendre. Il faut attendre le résultat des enquêtes. Les questions posées sont pertinentes et intéressent plus d'un. Je crois que ceux qui sont intéressés à la continuité du pouvoir, ce sont les détenteurs. C'est nous qui sommes le plus intéressés à savoir pourquoi ceci est arrivé, pourquoi cela est arrivé, qu'est-ce qu'il y a. Un non-État, c'est quoi? C'est un État où, moins de 4 heures après, la situation est maîtrisée, le porte-parole donne des chiffres. Le chef d'état-major général réagit ou on ne tire pas à tue-tête?
Merci.
Ce sont là des propos rhétoriques, je pense, qu'il faut éviter. Bon, quand vous dites qu'ils ne sont pas armés, ils n'ont peut-être pas ici, ils ont des affirmations, je crois qu'il n'a pas assez d'éléments pour donner ces affirmations-là. Il ne connaît pas les milieux du pasteur Moukoukoubile. Moi, j'en connais tout à fait par hasard. Malheureusement, je ne peux pas en parler ici. Mais il y a des personnes qui sont convaincues, parce qu'ils ont porté quand même des t-shirts. Moukoukoubile est bien président à telle date, etc., etc. Mais pourquoi affirmer avec une telle légèreté et pour désacraliser la noble mission des gens qui sont morts pour nous? Il y a des gens qui ont été abattus froidement. À la RTNC. Et ce sont ces gens-là qui ne sont pas des enfants de cœur, qu'il faut aller prendre, embrasser sur la bouche.
Et donc, il fallait les tuer.
Non. C'est en situation de légitime défense.
Merci, André Alain.
Non.
Je veux vous redonner la parole.
Le truc de dommages collatéraux. Les dommages collatéraux, ce sont les dommages qui ne sont pas en dehors du site.
Merci,
et qui
André.
Ne concernent
merci,
pas
André Alain Tundu.
Parce qu'il y a eu
s'il vous plaît,
des interrogations
s'il vous plaît, quand même assez denses. S'il vous plaît, merci. Ouais. Honorable Fayoulou, vous avez la parole. Mais monsieur. On va prendre d'abord. Oui. Excusez-moi, on va prendre d'abord pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Baume de Bukavu au sud Kivu. Les problèmes sécuritaires se posant sérieusement en RDC ne requièrent pour se faire des solutions sérieuses. Je pense que le mieux serait alors de s'attaquer plutôt à leurs véritables causes que de s'attaquer à leurs conséquences.
Alors il faut s'attaquer aux causes que de s'attaquer aux conséquences.
Mais je suis d'accord, mais on voit que comment M. Alain Tundu est visiblement gêné et il parle d'armes. C'est lui-même qui a dit que ces gens-là n'étaient pas armés. Maintenant, il retourne ça sur nous. Mais notre ami Wondo a fait une analyse correcte avec les 4 principes. Il les dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher? Quand M. Atoun nous dit l'émotion, moi je dirais, il faut pas non plus parler par fanatisme. Parce qu'on est fanatisme, je ne sais pas si ce sont des appels de pied qu'on fait à je ne sais qui. Il s'agit de la situation de notre pays. Il s'agit des enfants de la RDC. Et vous connaissez les montages. Mais les spécialistes, il a parlé des montages. On peut avoir un montage quand il parle de manœuvres militaires synchronisées. Est-ce que s'il s'agit de ça, parce qu'il donne des pistes, si c'est cette piste-là qui est privilégiée, est-ce que les gens qui ont monté ça ne peuvent-ils pas imprimer des t-shirts avec des effigies de cet illuminé? Donc, moi, il demande que je lui donne des contre-versions. Quelles contre-versions j'ai à donner? Je n'étais pas là. Moi, je dois me poser des questions. Moi, je suis quelqu'un qui analyse la situation et j'ai les faits. Les faits sont là. Je me pose des questions pour qu'on me dise. Et ce que moi, je dois faire et ce que j'ai fait, j'ai demandé une enquête. Et c'est ça, et j'attends que le gouvernement me donne une enquête. Et à partir de cette enquête, nous laisserons ça. Vous savez que dans des sociétés, moi j'ai travaillé dans une grande société, et ce sont des choses, des simulations que nous faisons, des risques, vous savez. Et là, le spécialiste nous dit, ça peut être ça. Quand on dit, bon, le feu va peut-être un jour prendre dans un dépôt ou dans une station. Et nous faisons ces simulations-là. Est-ce que c'est cette simulation, comme dit le spécialiste? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Mais qu'on nous le dise. Est-ce qu'à Kinshasa, il y a 53 personnes qui ont été tuées? Il y a eu des deuils ici à Kinshasa? Vous avez entendu des deuils, tout ça? Mais je sais que j'ai entendu, moi, des parents qui disent qu'on est en train d'arrêter nos parents, nos enfants. Où est-ce qu'on a pleuré ces 53 morts?
Mais est-ce que vous avez sillonné toute la ville de Kinshasa? Et même l'intérieur.
Mais écoutez, non, je parle de Kinshasa.
Oui, de Kinshasa, comme vous avez sillonné toute la ville.
J'ai sillonné la ville de Kinshasa. Vous savez, je connais, j'ai sillonné la ville de Kinshasa. Ce qu'il faut nous dire exactement, ce qui se passe, pour qu'on peut tuer comme ça facilement. Mais si on avait arrêté ces gens-là, la situation serait autre. Notre réaction serait autre. Mais vous allez, des gens qui ne sont pas armés, vous les assassinez. Et j'appelle ça assassinat. Et c'est ça le terrorisme. Et c'est ça la terreur. Parce que la définition a été donnée. Et donc, on veut créer une situation de psychose pour dire aux gens, attention, vous, nous vous voyons venir et nous vous prévenons. Demain, vous faites des manifestations ici, vous organisez des meetings. Vous qui avez dit, touche pas à mon 220, vous avez sillonné toute la ville de Kinshasa et attention à vous. Nous avons organisé un meeting le 1er septembre au stade Vélodrome. Vous avez vu le nombre de policiers qu'il y avait là? Le nombre de policiers pour un meeting d'un groupe politique?
Alors, Martin Paolo, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ces genres de situations, pour éviter que ces pareilles situations ne puissent se reproduire?
Mais je vous le dis à l'entrée, il faut un État. Il faut un État normal, il faut un gouvernement sérieux, il faut un gouvernement légitime. Et je pèse mes mots. Il faut un gouvernement légitime qui s'occupe des vrais problèmes des citoyens, qui s'occupe du développement du pays, qui ne s'occupe pas de l'enrichissement de certains individus, qui s'occupe comme d'autres nations, qui, quand un vaillant fils de la nation tombe comme notre ami le colonel Mamadou Ndala est tombé, on organise un deuil national. C'est ça que je veux.
Mais le gouvernement en place est quand même légitime, Martin Paolo. C'est un gouvernement issu des élections de 2000. On ne va pas rentrer dans ce débat.
Ne m'évoquez pas, mais vous le savez.
2011.
Vous savez que le gouvernement n'est pas légitime. Vous le savez. Donc parce que les élections, vous savez comment ça s'est passé. Il y a des rapports, je ne reviens pas là-dessus. Il y a des rapports éloquents qui disent exactement ce qui s'est passé. Si c'était légitime, vous avez cherché les concertations nationales pour la cohésion. Est-ce que là, les événements du 30 décembre vous disent qu'il y a cohésion nationale? Et j'ai vu des panneaux partout avec l'argent des contribuables qu'on est en train de mettre cohésion retrouvée. Où est la cohésion retrouvée? Mamadou Ndala a été tué dans les territoires contrôlés par les FRDC. Où est la cohésion nationale?
Merci Martin Fayoulou, Jean-Jacques Kondo. On parle des solutions. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter que pareille situation ne puisse se reproduire?
Et avant de proposer la solution, peut-être revenir, parce que mon intervention, je la précise, reste dans un cadre plutôt méthodologique, scientifique, d'expert. Donc je ne vais pas rentrer dans des considérations politico-idéologiques. Et quand monsieur l'ambassadeur Antoundou dit, par exemple, que voilà, c'est parce que ils se mettent à la place de gens qui sont intervenus, le tout se passe en un temps, et c'est là même qu'il y a une partie aussi des solutions qu'on peut proposer, que le problème, que le pas blesse, c'est-à-dire que comment les forces de police peuvent réagir de telle sorte alors que toute la base de la formation du métier de police ou de l'armée tourne autour de la maîtrise de la violence, de la maîtrise de l'usage des moyens de contrainte. Et c'est là même... Tous les fondements de la formation de l'armée. Et si on essaye d'attribuer ces réactions dans un cadre beaucoup plus militaire, ou de dire que voilà, ce sont les terroristes qui ont attaqué un État et que c'est une armée, parce que la garde républicaine, c'est une armée qui est intervenue, monsieur l'ambassadeur ne doit pas oublier que dans le cadre de droit international humanitaire, il y a ce qu'on appelle le jus ad bellum et jus in bello. Mm-hmm. C'est-à-dire le droit de faire la guerre, mais le droit de toute une série de principes qu'il faut respecter quand on est confronté à un conflit armé. Et ce droit exige à ce que un certain nombre de règles minimales soient respectées pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Donc je pense que la solution commençait d'abord par remettre en cause la formation de nos services, que ce soit de l'armée. Et l'autre solution aussi, c'est poursuivre, approfondir
pour la réforme de l'armée des services de sécurité, parce que si on en arrive au stade actuel, c'est que quelque part, il y a eu un maillon qui n'a pas fonctionné dans le processus de la formation de ce qu'on appelle des services de sécurité régaliens, c'est-à-dire l'armée, la police, ou même les services de renseignement. Et c'est très important ce que j'avance. Et pour revenir au cas de l'intervention, et ce qui est illégal pour moi, c'est qu'on voit une garde républicaine qui réagit et qui intervient, alors que si vous allez dans la loi sur la loi organique sur les par défaits, l'article 114, je le répète, dit bien la garde républicaine est une unité des forces armées ayant pour mission d'assurer 1. La garde, la protection du président de la République et des hôtes de marque de la République, la sécurité des installations présidentielles, les écoles et les honneurs de l'échelon à l'échelon de la présidence de la République. C'est le seul cas où légalement la garde républicaine peut réagir. Et je l'ai répété, la garde républicaine, par rapport à l'FNC, s'est trouvée plus loin que les autres services de l'armée ou de la police. Comment ça se fait que sur tous les sites mentionnés, c'était la garde républicaine qui est intervenue? Et s'il s'agit d'une mission de police, pour que la garde républicaine puisse intervenir, il faut ce qu'on appelle une réquisition de la garde républicaine par une autorité politico-administrative compétente. Est-ce que tout ce canevas a été respecté? C'est ça toute la question que nous posons en tant qu'analystes. Je pense qu'il faut vraiment revoir le principe même de fonctionnement de l'armée et le respect de la mise en œuvre de ces différentes forces ou services de sécurité.
Merci, Jean-Jacques Koundou.
Chaque fois qu'il y a un événement, ça pourrait déjà être un début de solution à la manière de d'intervenir en cas de menace.
Merci, Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques Koundou. André Alatoum, il faut approfondir la réforme des services de sécurité.
Il faut continuer. La réforme est un processus dynamique, n'est-ce pas, qui tient compte des péripéties, des objectifs, etc. Alors, pour la garde civile...
Il nous reste moins de 3 minutes.
Pour la garde républicaine. C'est la garde républicaine qui assure la garde à la RTNC. Donc, il est normal que lorsqu'on abat c'est les membres de cette garde, que ce soit l'unité qui intervienne d'abord. C'est pour ça que je dis, l'armée ne fonctionne pas d'après le commandement du commandant. C'est d'après le protocole, n'est-ce pas, prévu par l'état-major général.
Merci André Lotundo. Une petite question rapidement. Le prophète Mukungu Blaye, il est devenu quoi? Quel est son sort? Puisque c'est lui qu'on accuse d'être derrière ces événements de France.
C'est lui qui a d'ailleurs presque révendiqué.
Il est devenu quoi? Quel est son sort?
Il est recherché.
Merci. André, pardon. Martin Fayoulou, vous allez aussi conclure.
Écoutez, je voulais poser la même question. Mukungu Blaye est où actuellement? Il est où? Est-ce que a-t-on lancé un mandat d'arrêt international contre ce monsieur? Il est où? Il est passé comment? Quand on l'a suivi, il disait qu'on m'a provoqué. Mais il faut le suivre sur France 24 dans un premier temps. On m'a provoqué. On m'a provoqué pourquoi? Parce que on a attaqué sa maison à Lubumbashi ou pourquoi? C'est flou. Donc nous allons continuer à demander l'enquête parce qu'avec l'enquête, mais il faut qu'on nous donne l'enquête parce qu'il y a des événements passés. En 2012, on a eu la même situation. La résidence de Kabila a été attaquée. Et ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, nous attendons le résultat réel de l'enquête. On ne peut pas continuer à utiliser des gens ou à se jouer des Congolais. Parce que la quiétude des Congolais, là, déjà, les gens ne vivent pas correctement. Et les gens voulaient fêter paisiblement, avec peu de moyens, on vient troubler la quiétude des Congolais. Alors, les sites attaqués. Est-ce que les sites attaqués sont des endroits où les gens peuvent aller s'aventurer comme ça?
Merci.
Donc,
toutes
ces questions doivent trouver des réponses.
Merci Martin Fayoulou. Jean-Jacques Koundou, en 15 secondes pour conclure.
Pour conclure, je pouvais ne pas terminer pour saluer la mémoire et la vaillance d'un combattant qui incarnait la résistance des Congolais, surtout de sa jeunesse. Et je voudrais, par ce mot, saluer la mémoire du colonel Mamadou Ndala, qui incarne l'espoir de la jeunesse, de la régénération, de la renaissance de la jeunesse congolaise.
Merci Jean-Jacques Koundou. Un mot à dire? Juste un mot.
Juste un mot, c'est que l'armée est suffisamment organisée pour répliquer à toute initiative.
Merci André Alain Atundu, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.